le problème de privation des droits des femmes en ce qui concerne les propriétés, est-ce que ça a été pris en compte par les associations féminines en Jordanie? Est-ce qu'il y a, ça c'est une question, est-ce qu'il y a de militantisme de la part de ces associations féminines en Jordanie, la dizaine, qui justement travaillent envers la récupération de, ou la, pas la, l'actualisation des droits des femmes? Ça c'est une question que je pose toutes les trois pour Moussa. Alors, la période 1831-1841, sûrement, c'est une période critique, c'est une rupture, mais on ne sait pas quelle est la rupture en vérité pendant cette décennie-là et avant et après. Parce qu'on voit ce que tu as montré bien dans les colonnes qualitatives, quantitatives, mais quelle est la différence 10 ans plus tard? Quand Istanbul reprend la province, est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est une progression? Ça reste pareil. Et avant aussi également, qu'est-ce que tu trouves qui est vraiment la différence pendant cette période-là, qui a laissé des traces dans toute la société en fait de Bilal Hacham? Mais voilà la question. Et pour Oudane. Oui, deux questions. Alors, la personne, j'ai oublié son nom, c'est Mbaye. Oui, c'est la personne qui a créé le WACF et qui a...
Égal.
À part égal pour des filles et pour des garçons. Est-ce que nous avons des éléments sociaux, socio-économiques à propos du fondateur? Est-ce qu'on sait un petit peu qui est-ce? Qui est cette personne? Est-ce que c'est juste un nom? On ne connaît rien là-dessus? Ou est-ce qu'il y a des éléments dans les biographies de l'époque à son propos? Donc, ce serait intéressant de pouvoir le contextualiser, cette personne. Et puis, sans monopoliser, une dernière question. À la fin, il y avait un WACF créé par une femme où une des bénéficiaires était une femme étrangère à la famille. Ou est-ce que c'était juste une généralité que tu as dit? Ou est-ce que c'est un document où tu as trouvé une femme étrangère à la famille? Et étrangère, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est quelqu'un de village à côté? Ou est-ce que c'est quelqu'un de plus loin, de Tunis ou le Caire ou quelque chose comme ça? C'est ça là. Merci. Derrière moi.
Ok, si vous voulez. Oui, juste deux petites questions. Sur justement le PowerPoint, si vous, la page précédente, vous disiez que la page précédente, avant dernière page, s'il vous plaît, vous avez parlé des rapports sociaux, vous avez dit que le WACF de la part des femmes renforçait les rapports sociaux. J'ai pas. Voilà. Vous dites que ce rôle permet de renforcer les rapports sociaux. Et ça, j'ai pas du tout compris, puisque vous démontrez le contraire, c'est-à-dire que vous démontrez que les femmes avaient un certain pouvoir, un certain statut. Et puis, vous, alors, dans quel sens les rapports sociaux, dans le cas, renforcement des rapports sociaux inégalitaires ou plutôt égalitaires? C'est très vague, donc je voudrais juste une précision, si possible. Et puis, une question concernant la Jordanie. Merci beaucoup. Donc, vous avez bien montré que finalement. Quand la charia a été adoptée en 91 par les islamistes, finalement, enfin, a été appliquée aux terres qui étaient possédées par les bédouins, ça a été bien évidemment au détriment des femmes bédouines, puisque jusque-là, c'était moitié-moitié. Voilà. En revanche, vous avez aussi montré qu'il y a un intérêt. En tout cas, en précisant que les femmes qui ne possèdent pas, qui n'héritent pas, il y a un intérêt à ce qu'au moins la part de l'héritage, la demi-part, soit appliquée. Et j'entends bien ça. Mais en même temps, cela nous montre à quel point, dans certaines sociétés, c'est très difficile d'avoir une loi, disons, issue de la charia homogène. Donc, j'aimerais connaître, parce que moi, je connais d'autres situations. Je connais d'autres situations, et c'est pour ça que dans ma tête, je compare. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire que finalement, la majorité des femmes jordaniennes ne sont pas bédouines. Donc, je peux dire, elles ont intérêt à ce que la charia quand même soit appliquée afin qu'elles puissent hériter quand même la moitié de la part de l'homme, mais quand même. Ou alors non, pas du tout, parce que ça sera au détriment. Et que ça sera un principe qui, au final, sera inégalitaire pour certaines, égalitaire pour d'autres. Enfin, moins inégalitaire pour d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, merci en tout cas, parce que ça montre à quel point les situations sont complexes. Voilà.
Bon, c'est juste, vous avez, pour Myriam aussi, vous avez cité qu'un peu des causes de la non-passation des biens, etc., c'est aussi à cause du mariage. Donc la femme, elle va, pour ne pas partager avec les beaux-fils, ou les, etc. Donc avez-vous des précisions concernant les partages des biens après le mariage parmi les musulmans, mais aussi entre les chrétiens, puisqu'ils... Moi, d'après ce que je sache, en Jordanie, quand même, il y a les tribunaux de charia pour les musulmans et un autre tribunal pour les chrétiens. Mais vous avez cité aussi qui, dans les cas, qui dans ces cas précis que vous avez étudiés, la charia était aussi mise en place pour les chrétiens. Si vous pouvez donner plus de précisions concernant ça.
Donner la parole pour répondre. Je commence alors. Je vais vous remercier. Alors, je vais commencer par la dernière question. Donc, concernant les chrétiens, en effet, pour se marier, pour se faire enterrer, c'est selon le rite de leur église. Quand il s'agit de l'héritage, ils ont demandé à appliquer la charia. Ils l'ont demandé. Dans les années 30, les mandataires ont essayé de leur proposé. Dans les années 50, ils ont refusé, ils ont demandé la charia. Pourquoi ? Parce qu'ils sont minoritaires et qu'ils ne veulent pas que leurs biens soient disséminés. Il y a une loi importante que j'ai mentionnée, que je n'ai pas beaucoup développée justement, qui est en 1927, le British Land. C'est une loi qui vise à mettre un terme à toute la propriété collective, Mouchara, et à avoir la propriété privée enregistrée. Le problème, c'est que très vite, il y a eu fragmentation des lots. C'est-à-dire qu'après héritage, il n'y avait que des tout petits terrains. Ça, c'est un contexte. Maintenant, je pense que je n'ai pas été claire, madame, concernant la charia. Bon. La charia a toujours été appliquée en Jordanie sur le foncier, partout, sauf sur les terres pastorales. Parce que les terres pastorales, c'était le droit de tasarouf, c'était juste le droit d'usage. Le droit d'usage était partagé. Donc, la majorité des terres, elles étaient en moulk, c'était au milieu des villes. Moi, je l'ai mentionné parce que ces terres pastorales, avec la croissance des villes, se sont retrouvées intégrées en ville. Donc, elles ont eu le prix du foncier a été multiplié par 10 parfois. Donc, la perte économique a été d'autant plus sévère. Personne ne l'a vu passer, ça. C'était un amendement que personne n'a vu passer. Donc, c'est quand même incroyable. Maintenant, si on prend, Madame Randy, les militants des droits des femmes, elles m'ont dit quelque chose de très intéressant. Elles m'ont dit qu'elles se sont mobilisées en 2010. En 2000, elles se sont mobilisées à l'occasion de la sortie de ce rapport « L'Aïn al-Hukouk », un regard sur vos droits, qui était terrible. Et ce rapport, publié par Oxfam quand même, je n'ai pu avoir qu'un résumé de 3 pages. Je n'ai pas pu avoir le rapport en entier quand j'ai fait mon étude, alors que j'avais une lettre. Ils n'ont pas voulu me le donner parce qu'il était très, très critique, en fait. Mais de toute façon, j'ai fait des entretiens, c'est confirmé. Mais ce qu'elles m'ont dit, ce qui est beaucoup plus intéressant, elles m'ont dit « Mais regardez bien ». On parle de l'exclusion des femmes de l'héritage, mais on devrait parler d'autre chose. C'est l'exclusion des cadets. Alors, c'est un autre domaine. C'est une autre étude. Moi, elles me l'ont dit à la fin de mon étude. Moi, je terminais mon étude. C'est un autre volet. C'est qu'il faudrait voir ce qui se passe quand on est un frère moins charismatique que les autres. On se fait exclure comme les autres. Si on a voyagé, si on est légèrement différent, disons, on se fait exclure comme les autres. Et en fait, ce n'est pas seulement les femmes qui sont exclues. Ça peut être... Parce que les processus... Et ce qui est très, très intéressant, c'est le processus après la mort du père. Que se passe-t-il? Et j'ai demandé... Moi, je suis géographe, mais on fait un peu de sociologie, disons. On pose des questions quand même sur savoir ce qui se passe concrètement. Réunion familiale. Alors, il y a deux types de réunions familiales. En général, c'est ou dans le grand salon du père de famille. Quand ils dessinent une tribu, c'est, ils ont des madafés, des maisons d'hospitalité pour ça. Réunion familiale. Pas de bonne femme, hein. C'est que les hommes qui se réunissent, déjà. Enfin, déjà, premier point. Et que fait-on ? On essaie d'être le plus juste possible, mais dans l'intérêt bien compris de tous, des hommes. Donc on va donner, s'il y a une fille divorcée, ou s'il y a une fille, on va essayer quand même de la laisser sur son appart. Parce qu'il y a aussi un point très important dont je n'ai pas parlé, c'est que se passe-t-il des veuves ? Qu'est-ce qui arrive aux veuves ? La veuve, si son gamin a moins de 18 ans, 15 ans, pardon, si le gamin a moins de 15 ans dans la charia, tant qu'il a 15 ans, elle peut rester dans l'appartement. Dès qu'il a 15 ans, l'appartement lui revient. Et donc, il faut voir ce qu'on fait d'elle, ce qu'on va faire d'elle. Donc ça, c'est des points. Mais vous voyez, au moment où je le dis, je me dis qu'il faut que je retourne vers les textes, que je relise tout cela. Maintenant, pour les rites, qu'est-ce que vous m'avez dit sur le mariage ? Non, moi, j'ai dit simplement une chose. J'ai dit qu'il y a beaucoup d'endogamie en Jordanie, mais en Palestine aussi. Hein. Vous prenez les mariages, vous avez 40% des mariages qui sont contractés à votre cousin au premier ou deuxième degré. C'est énorme, quand même. Et à cela, vous ajoutez, et ça a été étudié par Édouard Comte, donc un anthropologue, il a étudié le badal. Le badal, c'est un autre système. Si vous avez un frère et une sœur qui épousent un frère et une sœur, ils ne sont pas liés. Leurs enfants deviennent cousins au premier degré. Mais en faisant ça, il n'y a pas de frais à payer. Et ça, lui, il estime que c'est à 20% des mariages. Donc il y a des articles, il est incroyable. Hein. Il a écrit sur l'Afghanistan et l'Iran, sur ces pratiques de mariage. Donc c'est, au total, ça fait qu'on marie, on se marie au sein d'un cercle assez réduit. Eh bien, malgré cela, la femme va être invitée à renoncer en cas de décès du mari ou compagnie, assez bien pour son frère. Donc voilà, ça c'était bon, c'est ce que j'ai compris. Voilà.
Oui, la question de Randy. En effet, je travaille sur cette période égyptienne. Je n'ai pas fait des comparaisons avec la période avant ou après, mais je peux dire, selon mes travaux sur le registre de la religion au 19e siècle, et rien changé de roi le reste du jour jusqu'à la fin de l'époque ottomane, même aujourd'hui. Mais seulement le change les statistiques, combien de femmes achetaient de biens ou les autres. Même aussi, je pense qu'il y a beaucoup de cas de femmes qui posaient des plaintes pour défendre sur le droit. Pourquoi ? Parce que la période après, c'est la période de Tanzima. La période de Tanzima, c'est beaucoup de liberté, beaucoup de réformes, beaucoup des étrangers qui viennent installer à Jérusalem. Il y a des correspondances ou l'influence étrangère. Pour ça, il faut corriger les femmes pour défendre leurs droits s'il y a des spoliations de leurs droits. Mais je pense, je n'ai pas des statistiques exactement combien de cas, etc. pour la période après et la période avant.
Donc, c'était dans la décennie de la présence égyptienne, il n'y a eu aucun impact visible dans les archives en ce qui concerne les pratiques de Waqf. Il n'y avait pas d'impact sur les pratiques.
Non, seulement j'ai trouvé seulement deux cas parmi 10 cas qui fondaient par l'homme de cette période. Donc, pas grand chose. Même dans la période, toute la période du 19e siècle, ce qui concerne la fondation de Waqf, pas grand chose. Par exemple, au 12e moitié du 19e siècle, j'ai trouvé seulement 12 Waqf fondés par d'hommes parmi lesquels il y a 12. On les femmes, c'est ça.
Oui, mais si on se limite à ton étude pour cet article 31-41 du 19e siècle, je veux dire que c'est possible, il n'y avait pas d'impact sur les pratiques, pas de création de waqf, mais des pratiques de location, pratiques de vente des fonds.
C'est la même
ça,
chose.
C'est intéressant.
Oui, c'est rien changé. Le pratique, c'est la même chose.
Est-ce qu'il y avait des plus de vestibules au transfert de propriété à cette période-là qu'après ou avant. Ça, c'est par exemple...
Pour le cerveau de la femme ?
Non, pas les femmes. Avant, oui, non, entre autres. Mais simplement, c'est intéressant de poser une question comme ça parce que c'est l'ouverture européenne, l'ouverture vers le marché, tout ça. Et alors, est-ce qu'il y avait un impact pendant cette décennie en ce qui concerne le mouvement de propriété qui appartenait au WAP. Parce qu'on voit qu'il y a des ventes des propriétés.
Mais si, une autre question hein, sur ce sujet.
C'est un autre sujet. Non, si, mais tu le vois
dans j'ai, moi, j'ai travaillé sur le droit des femmes. Tu vois, tu poses des questions sur les soldats, mais du coup, je vois.
C'est du temps pour ça.
Oui, exactement. Je n'ai pas de problème. Mais je. Pour bien manifester, mais. Alors,
Je
vais
vous poser
merci. Alors, il y a une question, il y a deux questions de Mme Rondé. Alors, la première question, le fondateur du WAQF qui a fondé un WAQF a des parts égales entre leurs enfants, c'est-à-dire entre les garçons et les filles. C'est un ex-gouverneur militaire, Kaïd, à la région du Millénaire. Puis il est devenu bey, au beylik de l'Ouest, à la ville de Mascara. C'est le bey Ibrahim. Alors, le bey Ibrahim, comme il avait beaucoup de propriété, il a fondé plusieurs waqf. Un waqf à des parts égales entre leurs enfants, un autre seulement pour leurs enfants masculins où ils excluent les filles, un troisième seulement pour les filles où il a déclaré l'exclusion des garçons. Alors c'est le bey Ibrahim. Le bey Ibrahim, oui, le bey de l'Ouest algérien. La deuxième question, la femme étrangère, le document qui parle de cette femme par rapport aux autres documents, les autres documents mentionnent le lien de parenté généralement entre le fondateur et les bénéficiaires. Mais ce document, le lien de parenté n'est pas clair, n'est pas mentionné. C'est pourquoi moi j'ai dit une femme étrangère de la famille, c'est-à-dire si c'était sa sœur ou sa fille ou je ne sais pas, le document mentionne presque tout le document que j'ai consulté, le document oui mentionne le lien de parenté entre le fondateur ou bien la fondatrice et le bénéficiaire. Troisième question ou remarque sur le renforcement des rapports sociaux. Je voudrais dire seulement la femme qui n'était pas marginalisée. Elle avait un rôle social positif à la société. Voilà, c'est ça. Merci pour la remarque. Peut-être la phrase n'est pas assez claire.
Il y a encore des questions, bien on peut clore là ce débat. Je voulais juste dire une chose pour faire un peu le lien avec le propos du début sur ces rapports de propriété qui sont compliqués, enfin qui sont complexes et qui sont un peu en train de disparaître parce qu'on est dans un processus de formalisation des droits de propriété et d'uniformisation. C'est que historiquement, le WAQF, il n'est pas dans, c'est pas une institution qui est inscrite dans les textes religieux. C'est plutôt, ça a été, ça, bon, il y a une, on s'inspire d'un hadith hein, du prophète, c'est ça pour le. Mais en fait, moi j'avais lu un historien syrien, je crois, Dori, il est syrien, hein, Dori, qui racontait que en fait lui, c'est un économiste plutôt. Sa thèse, c'est d'expliquer que les WAQF ont été créés par les autorités religieuses à un moment où l'État était faible. L'État était affaibli et c'était une institution qu'on a mis en place pour justement pour prendre en charge les. Entre autres, bon, il y a les WAQF religieux qui gèrent les biens religieux, ça c'est une chose, mais pour prendre en charge la question sociale en fait. Et de ce point de vue-là, par rapport à la faillite de l'État social. Et au coût que représente l'État social dans nos pays, c'est une alternative sur laquelle, enfin, on pourrait réfléchir pour voir comment justement faire moderniser le WAQF et de nouveau le solliciter pour financer des écoles, payer des bourses aux étudiants, enfin des choses que l'État ne fait plus et qui est traditionnellement dans les sociétés musulmanes, c'était les Wakfs qui le faisaient. Et là, il y a quand même tout un processus de modernisation du Wakf. Bon, j'en veux pour preuve toute la littérature aujourd'hui. Il y a une profusion d'articles, notamment en économie, sur le Wakf. Alors, c'est peut-être une littérature qui est très... un peu standard, hein, mais c'est quelque chose quand même qui mérite d'être, si on veut renouveler les institutions et surtout trouver une alternative à l'État rentier, comme on l'appelle, hein, c'est intéressant d'aller voir du côté de cette institution. Voilà, ben je vous remercie. Alors,